Des technologies, applications ou services conçus dans la Silicon Valley sont partout dans notre quotidien. Android, YouTube et Gmail sont des produits de Google. Les iPhones d'Apple, les applications Netflix, Uber, PayPal, bref, la liste est longue. Ah, et puis il y a X, anciennement Twitter, détenu par le milliardaire Elon Musk, qui possède aussi Tesla ou encore SpaceX. Et puis il y a aussi Meta, avec ses applications Facebook, Instagram et WhatsApp, avec un certain Mark Zuckerberg à la baguette. Tiens, Musk et Zuckerberg étaient tous deux à l'investiture du nouveau président américain Donald Trump le 20 janvier à Washington.
L'avenir va être vraiment brillant. Comme l'a dit le président, on va connaître un âge d'or, ça va être fantastique. Et l'une des choses les plus fondamentales, une des valeurs américaines que je préfère, c'est l'optimisme. Et nous allons nous faire un bel avenir, un très bel avenir.
Quand on voit l'alliance du moment entre des milliardaires de la tech d'un côté et le nouveau pouvoir trumpiste de l'autre côté, il est fondamental de tenter de comprendre la culture de la Silicon Valley. Salut, c'est Steven Jambot, vous écoutez l'atelier des médias de RFI, qui dure comme chaque semaine 20 minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix de nous écouter en podcast.
Thank you very much, everybody.
Le 3 juin 2023, j'avais reçu à ce micro un chercheur qui venait de publier une sociologie transversale de la Silicon Valley, fruit de plusieurs années de travail. L'actualité brûlante de ces derniers mois, avec la nouvelle élection de Donald Trump et les soutiens, coups de pouce ou largesses dont le nouveau président peut bénéficier de la part des géants de la tech, je me suis dit que le recevoir à nouveau était pertinent. Vous en jugerez. Bonjour Olivier Alexandre.
Bonjour.
Sociologue, donc, c'est vous. Vous êtes membre du Centre Internet et Société du CNRS. Cet entretien, je le précise, est enregistré le 23 janvier 2025 parce que cela va très vite actuellement sur ces sujets. J'aimerais avec vous que l'on revienne sur l'alliance qui s'est nouée ces derniers mois, ou qui s'est renforcée ces derniers mois, entre des milliardaires des entreprises de la tech 6 dans la Silicon Valley d'un côté, et Donald Trump et son mouvement MAGA, Make America Great Again, que certains ont même qualifié MAGA 2.0 de l'autre côté. Tous deux ont des intérêts antagonistes. Expliquez-nous.
Bah déjà, effectivement, si certains des auditeurs, auditrices ont vu les images du 20 janvier, c'est des images qui étaient inconcevables il y a un an, hein, au moment où Donald Trump était plus proche de la prison que vraiment d'un retour crédible à Washington, et y compris au sein de la Silicon Valley, où il avait absolument aucun soutien à ce moment-là, il y a un an. Et c'est vrai que c'est engagé une dynamique au fil de l'année qui peut expliquer cette configuration et de voir en randonnant un certain nombre des plus grandes fortunes du monde qui sont devenues des soutiens de Donald Trump, alors même que, effectivement, historiquement, elles ont pu défendre des valeurs, des engagements même, absolument à l'opposé de Donald Trump. Donald Trump est quelqu'un qui a été soupçonné ou condamné pour des propos racistes, des propos de harcèlement, d'agression sexuelle, de viol, des propos climato-sceptiques. Quelqu'un qui a eu des positions extrêmement changeantes en termes de géopolitique, notamment relativement à TikTok, et qui a pu ressembler, incarner vraiment un ennemi du progressisme, là où la Silicon Valley, longtemps, enfin du moins du début des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, a représenté un petit peu tout l'inverse, une forme de progressisme à la fois sur le plan des innovations, mais aussi sur le plan social. Il ne faut pas oublier que dans la Silicon Valley, notamment par rapport au reste des États-Unis, c'est un endroit qui est en faveur du droit des minorités, qui a beaucoup poussé pour certaines causes, notamment le mariage homosexuel, et où la moitié de la population est née dans un autre pays avec un niveau de formation très élevé et où la cause environnementale est vraiment quelque chose d'extrêmement partagé.
Si on rembobine vraiment complètement, qu'on va très loin historiquement, la Silicon Valley a plutôt été républicaine dans l'histoire. Elle était plus proche du complexe militaro-industriel, comme on le disait.
C'était même le cœur du complexe militaro-industriel. Après, ce qu'il faut voir, c'est que sur l'histoire longue des États-Unis, le Parti démocrate n'a pas toujours été le Parti démocrate tel qu'on l'entend aujourd'hui. Le Parti républicain n'a pas toujours été le Parti républicain tel qu'on l'entend aujourd'hui. Par exemple, Abraham Lincoln, qui est une grande figure morale des États-Unis, était un représentant républicain. Mmh. Après, c'est vrai que si vous regardez l'histoire longue de la Silicon Valley, qui a toujours oscillé entre des périodes de paix et de guerre, les périodes de guerre ont été extrêmement importantes pour son développement, et les périodes de paix ont tendu à mettre en avant des entreprises, des messages, des entrepreneurs beaucoup plus ouverts et en apparence progressistes. Mais parfois, c'est difficile de faire un distinguo, une distinction très claire, précisément parce que en temps de guerre, la Silicon Valley c'est très souvent vu et représenté, alors à tort ou à raison, comme l'avant-garde du camp du bien, du camp de la liberté, versus ou dans une situation un petit peu d'un monde libéral assiégé. Et d'une certaine façon, et extrêmement paradoxalement, c'est un petit peu ce qui se reproduit aujourd'hui. D'ailleurs, il y a énormément de références morales dans le discours de ces grands milliardaires de la tech, et y compris dans le discours de Donald Trump, où il s'agit de faire triompher le camp du bien versus le camp du mal, qui est à la fois qui se rapporte à des ennemis intérieurs et aussi à des ennemis extérieurs.
La tech, en même temps, de la Silicon Valley, s'est toujours présentée d'une certaine façon comme anti-système dans toutes les époques. Expliquez-nous.
Effectivement, les nouvelles technologies, c'est une manière, ou ça a été une manière de faire de la politique autrement. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça fait des nouvelles technologies ? Ça permet de lier des gens. Et je dis nouvelles technologies, c'est même pas des nouvelles technologies, c'est juste les technologies, ça permet de lier des gens. L'électricité, ça lie des gens. L'automobile, ça lie des gens. Le vélo, ça lie des gens. L'objet, mais aussi les infrastructures qui permettent de le faire. Et du coup, quand on est ingénieur, quand on est une ingénieure, on fait de la politique, d'une certaine façon. Sauf que ça en apparence, pas du tout les traits du politique tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire qui passe par la parole et qui passe par des actes juridiques. Si vous allez à Sciences Po, vous allez étudier ça versus des écoles d'ingénierie. Peut-être l'ambiguïté sur cette distinction, c'est que dans le domaine de l'ingénierie, on a toujours l'impression que ce qu'on fait c'est neutre. Alors même qu'il y a énormément de valeurs qui jouent à travers ça. J'ai un collègue célèbre qui avait beaucoup travaillé sur les tracés du métro à New York pour montrer à quel point, à la fois, il révélait et puis aussi il cristallisait tout un tas d'inégalités de représentation sociale au sein de la ville. Et si vous vous intéressez aujourd'hui, par exemple, à Google, à PageRank, hein, l'algorithme, ou à l'autre algorithme dont on m'échappe, Rubac, qui permet l'indexation, vous verrez aussi, en fait, tout un tas de dimensions de représentation morale. Et ça, c'est un point qui est souvent un peu ignoré, notamment quand on parle même de Silicon Valley, parce qu'on a tendance un peu à homogénéiser ou à le rapporter à un territoire où simplement on aurait des ingénieurs, des scientifiques, des innovateurs qui développeraient des systèmes sans qu'il y ait finalement plus de dimension idéologique ou politique que ça. Alors qu'il y en a beaucoup, et que tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs, que c'est pas tout à fait la même chose que de passer par Uber ou Google ou ChatGPT, que c'est pas tout à fait la même chose d'avoir de l'open source ou des systèmes fermés. Et en même temps, il y a un certain nombre de points communs, qui est, dit rapidement, le technosolutionnisme, de croire que tous les problèmes du monde, ou du moins les plus importants, peuvent passer par des solutions techniques. Et ce technosolutionnisme, aujourd'hui, il a le vent en poupe, il est très puissant intellectuellement, idéologiquement, matériellement, et maintenant politiquement, puisqu'il y a un certain nombre de ses représentants qui se retrouvent au cœur du pouvoir.
On va y revenir aussi. Ce qui rassemble tous ces gens de la Silicon Valley, c'est qu'ils se présentent depuis longtemps maintenant comme des doers, des gens qui font des choses, contrairement à ces intellectuels de la côte Est qui seraient juste en train de réfléchir dans des salons et d'avoir des grandes idées sur le monde, mais qui ne font rien de concret. Et l'idée aussi dans la Silicon Valley, ça vous l'avez bien expliqué, c'est de créer des outils pour rendre leur liberté aux individus et pas à la société dans son ensemble, au peuple dans leur ensemble. C'est l'individualisme qui est fondamental.
Oui, alors je pense que ça, c'est les deux points que vous avez mentionnés. Le fait qu'effectivement, ce sont des doers, des makers, des builders, c'est un point essentiel. Et notamment en France, plus généralement en Europe, on a tendance à projeter un petit peu des manières, comment dire, très très continentales de penser les intellectuels ou de penser les puissants à partir de leur représentation, de leurs idées, de leurs pensées, et de les juger un petit peu comme on jugerait des politiciens en France ou des intellectuels. Alors si vous regardez Elon Musk, c'est pas un intellectuel au sens classique du terme, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse au système. Et d'ailleurs, ses discours sont assez peu construits, en fait. Et si beaucoup de gens sont intéressés à ces influences intellectuelles, mais c'est pas tant des influences que des justifications, des choses qui vont permettre de rentrer dans son système de pensée, de le nourrir, de le formaliser parfois avec des systèmes d'entrée de sortie. Hein. Et d'ailleurs, il dit souvent, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Voilà, c'est un mode de discours qui est très scandé et qui correspond en fait à un système de pensée bien particulier qui est celui des ingénieurs. Mark Zuckerberg dit pas autre chose. Il dit moi. De formation, avant tout, je suis un ingénieur et je pense comme un ingénieur et il faut de plus en plus d'ingénieurs dans le monde. Alors, du coup, ça nous renvoie au deuxième point que vous mentionnez que j'ai un peu oublié.
C'est savoir rendre sa liberté à l'individu.
Oui, bien sûr, rendre sa liberté à l'individu. Alors, bon, c'est tout le problème de la liberté qui est à la fois vraiment une notion extrêmement classique, fondamentale aux États-Unis. Le premier amendement de la Déclaration d'indépendance 1776 aux États-Unis, c'est la liberté de croyance. Premier point, la liberté d'entreprendre, et puis la liberté d'expression. C'est les trois fondements de la démocratie aux États-Unis, et d'une certaine façon, la liberté vient avant la démocratie, où la démocratie s'adosse à la notion de liberté. Là où dans d'autres pays, notamment en France, la question de l'égalité a un rôle beaucoup plus structurant. Du coup, on a des références effectivement assez régulières à cette notion de liberté qui est très ambiguë, parce que la question c'est de savoir à quel groupe on associe la liberté. Alors, il y a la distinction que vous évoquez entre des individus et la société. Et aujourd'hui, au sein de la Silicon Valley, vous avez tout un tas de gens qui se revendiquent libertariens, qui est une expression et un mouvement extrêmement déjà ancien, hein, qui remonte aux années 1850 en France, qui a eu toute une phase anarchiste avant d'être relu d'une certaine façon, repris par des économistes autrichiens. Qui ensuite ont immigré aux États-Unis et qui ont pu influencer un certain nombre de figures. Et je pense que ça, c'est ce mouvement-là géographique, il est important parce qu'en fait, on a beaucoup de gens qui sont dans ce courant libertarien, qui ont fui l'Europe, qui ont fui les régimes autoritaires, qui ont fui le trop d'État. Et on retrouve aussi bien des gens qui ont ferraillé, pour dire le moins, avec les Soviétiques, mais aussi qui ont ferraillé avec Keynes. Et du coup, il y a une espèce de dramatisation de la question de la liberté qu'on retrouve très bien chez Ayn Rand, hein, qui est une grande figure intellectuelle, morale, aux États-Unis, dont se revendique aussi bien Mark Zuckerberg que Donald Trump, où effectivement, il y a une sacralisation absolue de la question de la liberté individuelle, où le groupe est toujours rapporté à l'individu, et d'une certaine façon, il y a pas de société a priori. Là où c'est vrai que dans des vieux pays comme le nôtre, que ça soit aussi bien la France, l'Allemagne, mais aussi la Chine ou l'Inde, le collectif en fait prime toujours d'une certaine façon parce que l'individu dans les modes de représentation arrive après le collectif. Hein. C'est le livre de Hobbes, hein, le Léviathan, qui est une question philosophique de savoir pourquoi des individus libérés et renonceraient à leur liberté pour la sécurité. Bah, aux États-Unis, le Léviathan, il vient toujours après, et c'est toujours un despote, hein, c'est un monstre. C'est quelqu'un avec qui il faut combattre et contre lequel il faut combattre. Du coup, aux États-Unis, effectivement, aujourd'hui dans la Silicon Valley et un peu partout, on retrouve très souvent cette notion de liberté qui apparaît universelle, alors même qu'elle est en fait historiquement très très située et qu'elle a un certain nombre d'implications très fortes, notamment parce qu'en fait, la manière dont elle est construite historiquement aux États-Unis, mais aussi par rapport à l'histoire du capitalisme américain, mais aussi par rapport à l'histoire des nouvelles technologies aux États-Unis, fait d'une certaine façon toujours jouer la liberté de certains contre celle d'autres.
Olivier Alexandre, il y a aussi la notion de travail qui semble être un point qui rassemble et en même temps divise les milliardaires de la tech d'un côté et le courant Make America Great Again de Donald Trump. Expliquez-nous un petit peu cette notion-là de travail et cette perception différenciée de la conception du travail qu'ont ces deux parties.
Effectivement, c'est un point important parce qu'en fait, si on regarde la coalition qui se réunit autour de Donald Trump aujourd'hui, déjà elle est assez différente de ce qui s'est passé en 2016. Et vous avez différents courants, vous avez les évangélistes hein, qui sont très puissants, vous avez effectivement un certain nombre de représentants du secteur de la tech. Pas tous, hein, pas tout le secteur de la tech, c'est aussi un point important. Et puis, vous avez une base nationaliste.
Patriote.
Alors, plus que patriote, parce que patriote, c'est la défense de la patrie, du pays, des États-Unis. Là, c'est vraiment des nationalistes, c'est-à-dire qui considèrent que...
America first.
Exactement, il faut couper les frontières, plus de passage, plus d'immigration. Il faut réindustrialiser le pays, il faut arrêter les délocalisations, il faut faire revenir les ateliers de confection de la Chine aux États-Unis, ce qui est un programme politique qui est très fort, qu'elle vend en poupe dans beaucoup de pays de démocratie qui sont travaillés par des inégalités et qui veulent revenir sur le libre-échange, hein, d'une certaine façon, qui a permis un enrichissement mais sans toujours des effets de redistribution équivalents. Et ça, c'est une ligne politique qui correspond pas du tout à ce que veulent ou à ce que ce en quoi croient ces grands leaders de la tech, à la fois en termes de politique économique, parce que faut pas oublier que les entreprises des nouvelles technologies, elles n'existent que parce qu'il y a des systèmes de délocalisation qui leur permettent de ce qu'on appelle outsourcer, donc faire travailler des gens loin des entreprises des nouvelles technologies, mais avec des niveaux de salaire qui n'ont rien à voir avec ce qui sont pratiqués à San Francisco, où si vous n'avez pas 300 000 dollars par an quasiment, vous êtes considéré comme une classe moyenne un peu basse du point de vue des ingénieurs de la tech, alors qu'ils vont embaucher de longue date des gens qui vont travailler parfois dans d'autres villes américaines, type Las Vegas ou celle du Midwest, et parfois qui vont chercher des gens au Venezuela, dans les Philippines, au Kenya, comme on l'a montré, en termes de modération et parfois avec des tâches d'ingénierie un peu plus développées aussi. Et puis, il y a toute la question de qui fabrique les objets. Par exemple, si vous vous intéressez à l'histoire d'Apple, vous verrez que au moment des China Papers, c'était en 2016, me semble-t-il, sur les 700 fournisseurs d'Apple, 500 étaient basés en Chine. Donc, qu'est-ce qui se passerait pour ces entreprises de la tech si on fermait les frontières? Et ouais. Alors, effectivement, il y a un débat qui a explosé d'une certaine façon durant la semaine de Noël aux États-Unis autour de cette notion de travail qui est devenue un symbole d'une certaine façon de cette division. Puisque d'un côté, vous avez des gens de la tech qui sont libéraux économiquement, qui sont pour l'ouverture aux frontières pour permettre une immigration des gens qualifiés, dont ils sont très souvent issus. Il faut pas oublier que Elon Musk, David Sachs, Peter Thiel, Vivek Ramaswamy, Srinan, qui est le numéro 2 de l'IA, et beaucoup d'autres sont nés dans d'autres pays, ont grandi avec une autre nationalité que la nationalité américaine. Et ce sont des gens par ailleurs très souvent athées, contrairement à la base soit nationaliste, soit évangélique de Donald Trump, et des gens qui croient vraiment dans le travail acharné, qui pensent qu'une semaine de 80 heures, c'est le minimum d'une certaine façon.
Donc là, il y a une ligne de clivage évidente entre, c'est d'un côté les techno-milliardaires de la tech, et puis de l'autre côté...
Absolument, parce que si vous travaillez 80 heures par semaine, vous allez avoir du mal à aller à l'église le dimanche, à passer votre week-end avec votre confrérie, et à valoriser l'American Way of Life telle qu'elle est pensée par cette base américaine. Et là, effectivement, vous voyez apparaître la faille d'une certaine façon de la coalition qui se réunit autour de Donald Trump.
Mais pourquoi alors cette coalition s'est-elle renforcée ces derniers mois jusqu'à l'élection de Donald Trump? Est-ce un rejet viscéral de l'administration Biden et des politiques gouvernementales de l'administration sortante, ou est-ce qu'il y a autre chose?
Vous savez, il y a cette figure, hein, Peter Thiel, qui est une figure de l'ombre de Donald Trump. Et Peter Thiel a été formé notamment par René Girard, qui est un philosophe français. La grande passion de lecture de René Girard, c'était Clausewitz. Donc Clausewitz, le théoricien de la guerre, avec cette grande œuvre sur la guerre. Et Clausewitz avait cette expression de monter aux extrêmes, qui fascinait d'ailleurs René Girard, de monter aux extrêmes. Et c'est un peu ce qui s'est passé au cours de ces quatre dernières années. Je pense que les gens ont pas assez conscience, ici, en Europe en tout cas, et parfois dans le monde, de la manière dont aux États-Unis, les quatre dernières années ont été vues de différentes façons et par paliers successifs comme une montée aux extrêmes. Et d'une certaine façon, la mise en place, et Elon Musk le dit souvent, d'une guerre civile en l'occurrence froide mais déjà chaude pour les gens qui se retrouvent aujourd'hui à Washington. Donc cette guerre, alors comment on peut la comprendre? En fait, on est passé d'un monde 2019, quelqu'un qui se serait endormi en 2019 qui se réveille aujourd'hui, il y aurait quand même un choc assez important.
Mais il y a quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu le Covid, guerre en Ukraine, etc. Ça, et le choc ça, économique
non, mais
qui a suivi.
Tout ça est absolument lié. Il y a eu le Covid, donc c'est quoi la séquence en termes économiques? C'est le Covid, crise des matières premières, guerre en Ukraine, parce que la Russie se retrouve dans une position difficile, un peu assiégée, etc. Elle a toujours vu l'Ukraine comme le grenier, et son grenier, en l'occurrence. Donc, si guerre en Ukraine, crise énergétique, Aux États-Unis, ça se traduit par un ralentissement de l'activité, une remontée des taux pour faire face à l'inflation. Donc, retour de l'inflation. L'inflation et la guerre, hein, ce sont deux pistons hein, dans l'histoire des démocraties. Face à quoi l'administration Biden a continué son agenda, donc pensé dans des années précédentes, de réglementation, notamment de réglementation de la tech. Parce que faut pas oublier que on vivait sur les cendres de Cambridge Analytica, notamment, de toutes ces questions sur la désinformation, et d'essayer notamment d'essayer de pas reproduire les mêmes erreurs qui s'étaient produites avec les réseaux sociaux face aux IA génératives que le monde a rencontrées en 2022, novembre 2022, avec le lancement de ChatGPT-3. Et en fait, cette coalition hein, dont je parle, c'est plus une alliance d'opposition qu'une alliance d'unité intellectuelle, parce qu'effectivement, ça rassemble des gens qui n'ont rien à voir. Par contre, ils ont un ennemi commun, ce sont le camp démocrate qui juge covidiste, comme ils disent, c'est-à-dire que, de leur point de vue, la crise a été extrêmement mal gérée. Alors, ils oublient parfois que Donald Trump recommandait quand même de boire de l'eau de Javel pour battre le virus et que d'une certaine façon, le début de la crise, uniquement le début de la crise, lui a valu sa réélection. Mais bon, il reproche ça, à tort ou à raison, je ne suis pas spécialiste du sujet. Il reproche la réglementation, il reproche le retour de l'inflation, il reproche aussi tout un tas d'enjeux plus symboliques, parce qu'il ne faut pas oublier que 2020, c'est aussi le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Et qu'ensuite, la guerre, le conflit israélo-palestinien a embrasé d'une certaine façon les campus, les médias américains, et que cette convergence s'est additionnée, la question du dérèglement climatique, de la crise climatique, et du coup, ça explique qu'on est à la fois dans le même panier des démocrates, des juges, des écolos, des pro-palestiniens, des pros des droits des minorités qui cristallisent d'une certaine façon le ressentiment et la haine de cette coalition trumpienne.
Olivier Alexandre, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose sur lequel à la fois les techno-milliardaires de la tech et le mouvement MAGA aiment taper, ce sont les médias traditionnels, les legacy medias. Ça les rassemble.
Oui, alors je comprends que pour des journalistes, ça soit quelque chose d'aberrant, extrêmement difficile parce que je crois, et c'est profondément inscrit chez les journalistes, dans les écoles de journalistes, dans les formations de journalistes, ils se voient un peu comme les gardiens de la liberté, hein, le quatrième pouvoir. Alors c'est plus compliqué que ça, et d'ailleurs le journalisme dans son histoire, et Balzac l'a très bien montré, a toujours été tiraillé entre, pour le dire très vite, le marché et la politique. Et d'ailleurs, si vous regardez le legacy media, aujourd'hui, ils sont toujours divisés entre ces deux démons. Hein, le marché, avec tout un tas de milliardaires qui contrôlent des médias, ça pose beaucoup de problèmes, et le politique, avec des suspicions de connivence ou une dépendance très forte aux institutions. En l'occurrence, dans la Silicon Valley, il y a cette idée que les journalistes participent de l'establishment, et d'ailleurs, ils appartiennent souvent à l'autre côté de l'Amérique. Les médias, ça se passe du côté de New York ou de l'autre côté de la Californie à Los Angeles. Et d'une certaine façon, le nord de la Silicon Valley, ce qui s'est beaucoup développé comme idée, c'est que l'informatique, puis ensuite Internet, puis ensuite les réseaux sociaux, puis maintenant aujourd'hui l'IA, ça permettrait d'aller au-delà des effets de contrôle de l'establishment, aller au-delà des manœuvres, des connivences, des raccourcis de ces journalistes qui se vivent comme des gardiens de la liberté, alors même qu'ils ont un effet de contrôle sur à la fois ce qui vaut information et ce qui ne vaut pas information, mais aussi ce qui est présenté comme bien et ce qui est présenté comme mal.
C'est-à-dire que c'est les systèmes d'information qui ont fait la richesse de la Silicon Valley, mais pas l'information.
Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai, et en plus, il ne faut pas oublier non plus qu'à partir des années 1990, les premiers secteurs qui ont été attaqués par les entrepreneurs de la Silicon Valley, bah, c'est le secteur des médias. Hein. Ça a commencé avec la musique, mais très rapidement, il y a eu la publicité, et puis il y a eu aussi la presse.
Les autoroutes de l'information, d'une certaine façon, ont fait du mal aux médias.
L'information. Alors, c'est paradoxal parce que, à la fois, il y a eu un pluralisme des médias, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de médias aujourd'hui, il y a beaucoup plus de journalistes aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ou 40 ans. Ça coûte beaucoup moins cher de faire de l'information, ça coûte beaucoup moins cher de la diffuser, et donc tout ça, d'une certaine façon, l'industrie des médias en a bénéficié. Et en même temps, ça l'a beaucoup fragilisé à différents endroits, précisément parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Et puis qu'aujourd'hui aussi, des gens qui n'ont pas de formation de journaliste, qui n'ont pas de carte de presse, peuvent produire de l'information. C'est toute la question des influenceurs qui n'ont pas forcément de légitimité au sens professionnel du terme, mais qui peuvent avoir une légitimité au sens de la popularité de leur audience. Et effectivement, c'est quelque chose qui hante un peu les débats, de savoir finalement la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, de monter des extrémismes et de monter du pouvoir de la tech, est-ce qu'elle n'est pas liée à une pollution de l'espace public et au fait que de plus en plus de personnes qui n'ont pas été formées aux outils et aux modes de pensée du journalisme peuvent avoir un accès direct à l'audience. Moi, j'ai une position un peu plus mesurée par rapport à ces débats.
Un des personnages symptomatiques justement de cette information qui n'a plus besoin des journalistes, de ces plateformes sur lesquelles on peut s'exprimer à tout le monde, eh bien c'est ce qu'on voit avec Elon Musk qui a racheté Twitter, qui l'a transformé en X. Et vous avez déclaré il y a quelques jours à Alternatives Économiques que Elon Musk est le troll devenu roi et qui maintenant dispose de cette plateforme dont il fait ce qu'il veut d'une certaine façon.
Oui, troll au sens donné dans cette culture informatique, au personnage qui vient troubler les discussions, provoquer, dire des choses absolument outrancières, parfois insultantes, et qui se pose en espèce de rebelle, de marginal par rapport au bon sens de la discussion. Et ça, c'est ces figures du troll, on les voit arriver dans les premiers forums virtuels dans les années 1980, et puis ensuite être mieux identifié, se spécialiser. Souvenez-vous, durant ces années de journalisme citoyen, sur les forums, on voit ces personnages arriver et penser à contre-courant, mais aussi à contre-forme, d'une certaine façon, parce qu'ils ne respectent pas la civilité classique attendue.
Au point de se servir, par exemple, de sa plateforme, comme Donald Trump aussi, de ses différents réseaux sociaux, pour faire du name and shame, le fait de nommer pour foutre la honte aux gens, voilà.
Oui,
des cabales publiques, d'une certaine façon.
Du bashing, absolument. Alors, la période qu'on est en train de vivre, elle est déroutante, elle est inquiétante sûrement pour beaucoup d'entre nous. Elle est aussi assez fascinante parce que c'est vraiment une période de mutation, d'hybridation du politique. C'est-à-dire que toutes les institutions politiques qui tiennent à des organisations, mais qui tiennent aussi à des manières de faire, se défont ou sont mises au défi ou sont mises en concurrence. Et c'est vrai qu'on voit des pays qui restent campés d'une certaine façon sur ces traditions parfois diplomatiques séculaires, la Chine, l'Inde, l'Europe, évidemment. Et puis, on voit d'autres pays qui font les choses différemment, la Russie ou les États-Unis, avec une conjonction de cultures qui a plus grand-chose à voir avec la culture des hommes d'État ou de l'appareil d'État, mais des gens qui se comportent, type Elon Musk, à la fois très maladroitement, et c'était beaucoup dit notamment au moment de son geste, de la main qui va de la poitrine vers le ciel.
Que certains ont qualifié de salut nazi.
De salut nazi, de salut fasciste, mais que d'autres ont dit que c'était une maladresse, d'autres ont parlé de salut au drapeau, d'autres ont dit qu'il était Asperger et du coup qu'il était un peu maladroit. Moi, je tiens à dire, je le suis quand même depuis de longues années, que si Elon Musk est maladroit du point de vue des critères habituels de l'homme d'État, il est extrêmement habile du point de vue de la culture Internet. C'est le roi des mèmes. Elon Musk. Donc, j'ai peine à croire qu'il ne maîtrise pas la dimension visuelle de ce qu'il fait. Donc à la fois, il y a ces deux dimensions. On l'a vu gesticuler, sauter un petit peu comme un adolescent autour de Donald Trump sur des scènes, ce qui effectivement est saisissant du point de vue du protocole habituel. Mais en même temps, du point de vue de la culture du mème ou de la culture Internet, c'est parfaitement cohérent. Et d'ailleurs, ça donne des images reprises en boucle et en boucle et en boucle jusqu'à l'infini.
Mais ce qui est atypique, là, c'est qu'il va se retrouver d'une certaine façon à l'épreuve du pouvoir, quand bien même il était déjà proche de certains cercles du pouvoir de par ses entreprises, que ces entreprises ont été et sont toujours très subventionnées par le gouvernement fédéral américain. Mais là, il va se retrouver à la tête d'une agence qu'il doit co-diriger, le Department of Government Efficiency, l'efficience économique gouvernementale. D'une certaine façon, il a promis de réduire les coûts du gouvernement américain au sens large. À l'épreuve du pouvoir, ça va donner quoi, à votre avis ?
Le programme est extrêmement ambitieux. C'est vrai qu'il l'a dit un peu hilar et galvanisé, qu'ils allaient le faire, que la Dodge allait couper du coup 75% des effectifs de la bureaucratie américaine fédérale, déréglementer et faire passer son budget de 6700 milliards et le couper de 2500 milliards.
Ouais, mais il a revu ses chiffres un petit peu à la baisse. Voilà. Il se rend compte que ça va être plus compliqué que prévu.
Évidemment, comme nous le savons, nous, simple administrés, la bureaucratie n'est pas une chose facile à manœuvrer. Lui a dit que, en plus, alors il y a plusieurs points, que ça serait une agence indépendante, Mais alors du coup, comment ça va se passer avec les agences qui sont nombreuses aux États-Unis, qui sont à la fois fédérales et fédérées, et qui ont parfois des missions qui impactent directement la base MAGA de Donald Trump? Je pense notamment à la plus grosse agence fédérale américaine, qui est l'Agence des vétérans. Ça regroupe 400 000 employés, donc c'est vraiment considérable. C'est un impact direct sur les personnes. L'ensemble des employés fédéraux aux États-Unis, c'est 1% de la population. Donc c'est beaucoup, mais c'est d'autant plus que cette population, elle est répartie souvent dans des États assez peu peuplés des États-Unis, centraux, assez peu industrialisés. Donc imaginez, si vous coupez le vivier étatique économique de ces États, qu'est-ce qui va se passer aussi? Donc c'est autant de choses, si vous voulez, je pense que dont Elon Musk n'a pas du tout pris la mesure, notamment parce que lui, il est habitué à gérer, comme il l'entend, des systèmes d'information et des organisations qu'il voit comme des systèmes d'information, sans s'embarrasser d'ailleurs ni du droit, notamment de la question syndicale qu'il a toujours essayé de mettre à bas dans la longue tradition de la Silicon Valley, hein, où le syndicat c'est vraiment l'ennemi, et on voit toutes les difficultés qu'il a à faire la même chose en Suède ou en Allemagne, qui ont des pays où la tradition syndicale est assez forte, et il s'est jamais non plus à embarrasser, pour le dire vite, d'empathie. Hein, pour lui, on peut virer quelqu'un du jour au lendemain. Et ce qui, pour un ingénieur, pose pas vraiment ou forcément de problème, parce qu'il va retrouver du travail assez vite. Alors, ça peut poser des problèmes parce que c'est violent, mais il va retrouver du travail assez vite. Qu'est-ce qui va se passer pour des fonctionnaires et à l'échelle à laquelle il a annoncé? Donc effectivement, ça va avoir des défis. Ça va représenter un défi extrêmement important. D'autant plus que 2 ans, c'est pas tout à fait anodin comme date, parce que ça va correspondre aux prochaines élections sénatoriales, qui sont toujours un moment assez rude pour l'administration en place.
J'aimerais qu'on parle, Olivier Alexandre, d'IA, d'intelligence artificielle ensemble, puisqu'on sait que c'est une expression qui est sur toutes les bouches et dans toutes les têtes par les temps qui courent, que les États-Unis sont dans une course en avant avec la Chine, notamment sur ces questions-là, qu'ils entendent, du coup, les technomilliardaires ne pas être freinés par des réglementations, d'où qu'elles viennent. Là-dessus, Donald Trump a annoncé mardi 21 janvier un projet structurant pour le développement de l'intelligence artificielle aux États-Unis, doté de 500 milliards de dollars sur 4 ans, dont 100 milliards de dollars immédiatement. Et on a vu Elon Musk intervenir dans les commentaires d'un tweet d'OpenAI à ce sujet, disant « ils n'ont pas l'argent, l'argent n'arrivera pas tout de suite ». Comment se positionne là-dessus Elon Musk? Est-ce qu'il a... Il veut jouer sa part du gâteau? Est-ce qu'il a peur ou est-ce qu'il veut défendre ses propres intérêts?
Je pense que peut-être aussi, Elon Musk n'est pas un champion de la psychologie, plus généralement de toutes les sciences sociales, hein, de la sociologie ou de l'anthropologie. Peut-être qu'il n'a pas assez mesuré le mode de fonctionnement du personnage Donald Trump, qui a toujours divisé pour régner. Il a toujours fait ça. C'est
insaisissable.
C'est son leitmotiv. Je trouve qu'il est très saisissable. Par contre, faut pas du tout attendre avec lui. Faut pas avoir foi en lui. C'est un deal maker. C'est quelqu'un qui va chercher son intérêt et qui va diviser pour régner. Donc peut-être que, enfin, je crois percevoir, je connais pas personnellement, mais je pense que Elon Musk, il est beaucoup plus romantique d'une certaine façon. Je pense qu'il attend. Il attend des formes de loyauté, il attend des formes de reconnaissance. C'est vraiment quelque chose à laquelle il aspire. Et effectivement, le coup de Donald Trump, il est très adroit, parce que à la fois, il s'attribue ce grand projet, qui est un projet privé, hein, c'est pas un projet public. C'est un projet qui est porté par Oracle, OpenAI et SoftBank, qui est asiatique, et qui vont s'allier pour effectivement mettre beaucoup d'argent sur la table. Alors, on a annoncé 500 milliards, pour l'instant ça va être 100 milliards, on a annoncé 20 data centers construits, pour l'instant en fait les chiffres c'est plutôt 10, et même s'ils commencent à être construits, et en tout cas ça met en minorité d'une certaine façon Elon Musk, mais ce qui est adroit pour Donald Trump, parce qu'il a d'autant plus intérêt à avoir différents affidés dans son portefeuille. Et du coup, effectivement, oui, ça a tout de suite inquiété Elon Musk, qui se retrouve mis en porte-à-faux. Et ça va être un des enjeux de ce mandat, de savoir comment Donald Trump va pouvoir orchestrer ses différents intérêts, qui sont des intérêts de loup, hein, maintenant. Hein. Encore une fois, il y a une mentalité martiale qui s'est installée au cœur du pouvoir, mais y compris dans l'univers des nouvelles technologies, avec une évolution de ce secteur qui se recentre sur le fondement de l'intelligence artificielle, dont la particularité économique, c'est de coûter très cher, de différents points de vue, c'est de dévorer beaucoup d'énergie, d'avoir besoin de ressources en cloud, de computation, hein, de calcul, et d'avoir beaucoup de besoin d'eau pour refroidir les data centers, et aussi de recruter des cerveaux et à des prix très très chers. Ce qui fait que, et Elon Musk l'avait dit il y a quelques temps, pour être compétitif dans ce domaine-là, et c'est à 10 milliards que ça se joue. Si vous n'avez pas 10 milliards à mettre sur la table, vous ne pouvez pas être compétitif. Là, en l'occurrence, ils mettent 100 milliards avec un conglomérat à 3. Et à ce niveau d'altitude, il reste pas grand monde. Et effectivement, c'est aussi une question qui joue, alors à la fois en interne au sein de la Silicon Valley, mais aussi en externe, parce que la grande inquiétude de la Silicon Valley, c'est de se voir relégué par la Chine.
Olivier Alexandre, vous écriviez dans une tribune dans Le Monde en juin 2024, « En 30 ans, la tech est passée de l'utopie à la dystopie ». L'actualité de ces derniers mois vous donne de plus en plus raison sur ces sujets-là, et on note en plus que le virage à droite de la tech semble ne plus s'arrêter d'une certaine façon, et pas qu'aux États-Unis.
Oui. En fait, bon, moi, la manière dont je le regarde, c'est plus sur le long cours déjà, et puis en tant que sociologue, c'est-à-dire que j'essaie de voir en fait quelles sont les évolutions industrielles et comment ça se traduit sur le plan de la culture ou sur le plan politique, sur le plan symbolique de manière plus générale. Et c'est vrai que, en fait, l'évolution depuis les années 1970, c'est une montée en puissance de l'informatique, mais aussi de la finance, mais aussi d'un certain nombre de médias. Et que ces nouvelles industries qui ont le vent en poupe forment d'une certaine façon une coalition. Et d'ailleurs, si vous regardez l'équipe de l'administration Donald Trump aujourd'hui, c'est des gens qui viennent de la finance, c'est des gens qui viennent des médias, de Fox News, du secteur de l'entertainment, avec le catch, le MMA, et puis de la tech. Mais sauf que ces secteurs-là, ils ont une particularité par rapport à d'autres secteurs qui ont fait hein, la fortune américaine hein, et la grandeur de son capitalisme, qui étaient notamment le pétrole, qui étaient notamment les transports, la production automobile et d'acier. C'est des économies, ces nouveaux secteurs qui concentrent la richesse et qui la redistribuent très peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent fordiste. Il n'y a pas de fordisme avec la tech. Et effectivement, cette problématique-là, elle est absolument transversale à tous les pays dits industrialisés ou qui se transforment. Et même, elle est mondiale aujourd'hui et pose vraiment une question de savoir comment on va rentrer dans le 21e siècle, comment on va savoir recréer des modes de solidarité pour pas finir par tous s'entretuer. Parce que effectivement, à part cette option-là, hein, celle de la guerre civile promise par Elon Musk aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, mais aussi en Allemagne, et bientôt peut-être en France, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Et donc, c'est sûrement un des rôles de chaque pays, de chaque dirigeant politique, mais aussi d'une certaine façon de l'Union européenne, de essayer de repenser des systèmes de solidarité pour faire un nouveau commun.
Et ça peut se jouer aussi à l'échelle de chacun et de chaque citoyen. Merci beaucoup, Olivier Alexandre.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie, chargé de recherche au CNRS, membre du Centre Internet et Société. Votre dernier ouvrage, La Tech, quand la Silicon Valley refait le monde, est paru au Seuil en 2023. Un prochain livre peut-être apparaître ?
Oui, absolument. Alors plusieurs. Un livre sur le capitalisme numérique apparaître normalement dans le courant de l'année, qui sera un travail collectif que je co-dirige avec mon collègue Benjamin Loveluc. Une version anglaise américaine modifiée du livre La Tech, là, qui doit apparaître en septembre 2025. Et puis sûrement un autre livre sur les dirigeants de la tech.
Merci beaucoup. À bientôt, Olivier Alexandre.
À bientôt.
C'est ainsi que se termine l'Atelier des médias. Chaque samedi, un épisode est disponible sur toutes les applications d'écoute. Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou encore l'application RFI Pure Radio. Simon De Creuse est le réalisateur de l'atelier. Merci à lui et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle l'adresse email si vous souhaitez nous écrire, c'est atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro original de l'Atelier des médias.